Notre prochain invité est entrepreneur, mais aussi blogueur au Journal des Affaires. Ce matin, il lance un nouveau pavé dans la mare en lien avec un dossier délicat, celui des pourboires. On rejoint le PDG fondateur de Pure Vodka et de Romeo's Gin, Nicolas Duvernois. Salut Nicolas.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ouais, super bien.
Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir une boîte de Pandore comme celle-là ce matin? Tes vacances étaient trop tranquilles ou...
Non, un mauvais service au restaurant où j'ai laissé trop de pourboires. Non, mais c'est parce que ça fait longtemps que moi, j'aime bien écrire sur des sujets à droite et à gauche qui tournent toujours sur la société, sur le monde des affaires. Et puis, ben, le sujet du pourboire, ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'en parler. Mais pour de vrai, je dis pas que je suis contre le pourboire, je suis pour le pourboire, mais j'essaie de le réinventer et j'arrive pas. Donc là, je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, on trouve pas une solution, on lance un appel à l'aide à tous. Et ouais. Puis, ben, tu sais quoi, j'ai reçu des milliers de commentaires. Donc, tout le monde a eu l'idée sur le pourboire. Donc, je crois que je vais peut-être trouver la solution.
Et là, tu l'avoues d'entrée de jeu dans ton article de blog, ta femme a travaillé en restauration. Donc, elle a bénéficié du système de pourboire pendant plusieurs années, là.
Exactement. Pendant 10-12 ans, elle a travaillé en restauration. Puis d'ailleurs, je le dis dans mon article sans blague, c'est grâce à son salaire que Pure Vodka existe. Ma femme me faisait payer mon loyer, mais m'aidait énormément pendant que moi, je l'avais des planchers. Donc, blague, c'était très important dans notre démarche, l'accès à ce fameux pourboire.
T'as fait tes devoirs avant de rédiger l'article. Ça vient d'où, au juste, le concept de pourboire?
Mais j'ai trouvé ça cool parce que souvent on fait des trucs puis on par défaut ou par automatisme puis on sait pas d'où ça vient. Mais ça, c'est originaire d'Angleterre, c'est un patron qui avait certains clients pressés et pour s'assurer d'être servi plus rapidement, donc de repartir plus rapidement, le patron avait laissé une petite soucoupe avec une petite enseigne qui disait to ensure promptness, donc en français pour assurer la rapidité.
Okay.
Et donc les personnes laissaient quelques pièces pour être servies plus rapidement. Et to ensure promptness, ben c'est trois lettres, hein, trois mots, et c'est tip. Donc c'est le nom anglais du pourboire, c'est tip. Donc c'est comme ça que c'est né. Puis après, avec l'histoire, ben c'est sûr que il y avait une partie en France de la bourgeoisie qui laissait des pourboires pour montrer sa richesse. Et par la suite, ben c'était aussi pour littéralement pour laisser quelques pièces pour que la personne puisse aller prendre un verre pour le remercier du bon service, d'où le nom pourboire. Et puis, ben, c'est devenu presque mondial.
Il y a un aspect culturel au pourboire. D'ailleurs, c'est bien de s'informer avant de partir en voyage pour savoir quels sont les us et coutumes du pays qui nous accueille. Les différents pays d'Europe, notamment, n'ont pas les mêmes codes informels que nous, là.
Non, exactement. Comme en France, ben le pourboire est inclus dans la facture. Donc, je vois souvent des personnes, moi-même qui est moitié français de père et qu'on vend très bien là-bas. Donc, j'y vais souvent. Je vois souvent des Québécois ou des Américains qui laissent un 15% de plus ou un 20% de plus qu'ils ont adoré le service. Bien sûr qu'il n'y a aucun serveur en France qui va dire « Non, non, reprenez l'argent, ce n'est pas inclus. » Mais oui, il y a un 15% automatique. Mais tu vois, en Allemagne, c'est 5 ou 10%. Qu'on laisse, et c'est pas 15. Et en faisant un peu de recherche, malheureusement, je ne pouvais pas écrire un livre là-dessus, mais j'ai remarqué qu'en Colombie, ben, à la limite, c'est insultant, laisser un pourboire.
Mais ça m'est arrivé, donc, Nicolas, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis installé là-bas pendant un an en 2012, puis quand je suis arrivé au bar la première fois, j'ai laissé une pièce d'une livre sterling, là, un pound, sur le comptoir pour le barman. Il m'a dit « Non, non, tu comprends pas, là, ramasse ça ». Je l'ai compris à la dure, mais lui aussi semblait insulté quand je lui ai offert un pourboire alors qu'il venait de me couler une bière. Là, tu sais, c'était banal. Mais...
Exactement. Puis il y a même des pays où mieux vaut rien laisser que laisser un pourboire moindre. Donc carrément, eux, ils préfèrent rien recevoir que recevoir 10%, disons.
Ouais.
Donc c'est super intéressant, non? Chacun ses coutumes.
Tu l'écris, Nicolas, aujourd'hui, le pourboire, c'est un peu le Far West au Québec. Tout le monde veut mettre la main là-dessus. Tout le monde veut avoir sa cote, là.
tout le monde veut mettre la main dans le pot, comme on pourrait dire. Mais c'est sûr que on en parle depuis quelques années au Québec plus fortement. Et puis dernièrement, il y a eu les employés de cuisine aussi qui se plaignaient de pas avoir accès ou pas avoir droit à une partie du pourboire. Il y a les propriétaires de restaurants qui une industrie très difficile. Je l'ai appelé à la dure, mon premier restaurant, ça a été absolument nulle part. Et donc qui veulent mettre aussi qui veulent leur quote-part. Il y a bien sûr le ministère du Revenu.
Oui.
Qui dès qu'il voit une scène par terre, ça garoche. Donc, c'est sûr que c'est le Far West, littéralement. Et puis, je me suis posé la question, donc, comment réinventer le pourboire? Puis, en me posant la question, puis en analysant le tout, finalement, là, moi, j'ai jamais chialé quand j'ai eu un excellent service au restaurant. J'ai toujours laissé plus. Je laisse 20% régulièrement. finalement le problème, c'est pas le pourboire, c'est le mauvais service. On chiale sur le pourboire quand, juste quand on a un mauvais service.
C'est clair. Sinon, ça nous fait plaisir de le donner pour encourager et remercier la personne qui nous a servi. Mais tu parles de mauvais service, Nicolas. On parle énormément de pénurie de main-d'œuvre à Québec cet été. Je sais pas si c'est le cas également de ton côté à Montréal. Mais
c'est difficile de trouver des bons employés.
Justement, donc, on est obligé, en quelque sorte, comme restaurateur, des fois, de se rabattre vers des employés qui ont moins d'expérience ou qui ont peut-être pas le bagou d'être serveur ou serveuse nécessairement. Mais on a besoin de staff sur le plancher. Est-ce que tu as remarqué que le service était un peu moins bon depuis quelques années?
Mais j'ai remarqué, surtout, j'ai vraiment l'immense chance, là, le privilège de voyager énormément pour le travail. Et puis, dans plusieurs pays, c'est un métier. Être serveur, c'est un métier.
Ouais.
C'est une passion. C'est des personnes qui sont serveurs et fiers d'être serveurs. Ici, c'est souvent des emplois d'étudiants. C'est souvent, je fais souvent un clin d'œil à quelques amis artistes que j'ai, qui est très difficile de percer dans le domaine. Donc, il y a plusieurs acteurs en devenir, il y a plusieurs musiciens en devenir qui sont serveurs. Donc, c'est souvent un plan B. Et c'est peut-être un des problèmes. Attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, là. Il y a d'excellents serveurs. Mais c'est peut-être pour ça aussi. J'essaie de trouver des solutions. Puis aussi, ce que je remarque, en France, là, à Paris, prenons l'exemple de Paris, les restos sont pleins 7 jours sur 7. Ici, c'est un luxe aller au restaurant. Hein? Mm-hmm. C'est le jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est des salaires instables. Quand il fait moins 40, on n'a pas envie d'aller au restaurant. Quand il fait plus 40, on ne va pas au restaurant. Quand les Canadiens jouent, on reste chez nous. Donc, tu sais, c'est très cyclique. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est difficile d'attirer une clientèle, un employé de qualité.
Mais le pourboire fait aussi monter le salaire en bout de ligne. Là, j'ai entendu des gens, quand j'étais à l'université, finir leur bac puis dire, ben je pourrais me trouver un emploi dans mon domaine, mais comme je travaille en restauration ou dans les bars, puis le pourboire est tellement payant, ben finalement, je vais continuer à faire ça encore une couple d'années plutôt qu'essayer de percer puis de commencer au bas de l'échelle dans mon domaine.
Écoute, ma femme, Caroline, c'était pas ma femme, c'était ma copine dans le temps, mais elle travaillait sur Saint-Laurent dans les bonnes années de Saint-Laurent, OK? Dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Le Globe, malheureusement, qui a fermé.
Okay.
Elle faisait un salaire d'ingénieur, là. Ça payait, là. C'était très profitable. C'est pas tous les restaurants qui sont comme ça, mais les bonnes années. Ma belle-mère, qui ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille, qui est d'ailleurs à Québec, qui travaille dans la restauration. Aujourd'hui, elle travaille chez Coran. Et dans les bonnes années, les beaux restos-bars, je crois que c'était à la place du Bogart au tout début.
Sur le boulevard Laurier, oui.
Exactement. Elle faisait une fortune. Parce que le monde était généreux, ça sortait plus, ça buvait plus, donc ça monte automatiquement la facture. Donc non, ça a beaucoup évolué. C'est un travail aujourd'hui qui est très difficile, effectivement.
Ouais. Un des aspects que tu abordes dans ton article sur lesaffaires.com ce matin, c'est la façon de donner le pourboire. Parce que dans la majorité des cas, on arrive pour payer et c'est le serveur qui nous tend le terminal ou qui recueille les billets.
C'est
là.
Gênant.
Il est dans notre face.
C'est ça.
Il est dans notre face. Il est à 30 cm. Il scrute tel un faucon tes doigts pour voir si tu fais F1 ou F2. C'est vraiment gênant. Puis c'est pas une question. Tu n'as pas envie de commencer à t'ostiner avec le serveur. Tu n'as pas envie. Tu es avec ta femme, tu es avec ton ami, tu es avec je ne sais pas qui, au restaurant. Puis la personne est là avec le petit terminal. Puis là, ils ont pré-programmé, hein, c'est 15 ou 20%. Tu ne peux pas laisser 17 ou 18. Là, sinon, il faut que tu pitonnes pendant 2 heures.
Ouais.
Donc, c'est bizarre. Et puis, j'ai reçu plusieurs commentaires sur ça, d'ailleurs. Et c'était super intéressant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, au lieu de donner le pourboire tout de suite, pourquoi pas donner comme des étoiles, tu sais? Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles pour le service.
Ouais.
Et puis, le pourboire, on verra par après. Bref, il y a quelque chose à faire, sans blague. Et puis, le premier gagnant, ça sera l'employé qui est bon, puis qui aime ce qu'il fait, puis qui a un sourire, puis qui est propre, puis qui est de bonne humeur. T'sais?
Moi, j'ai arrêté d'être gêné de donner moins de pourboire. T'sais, zéro, je pense pas que ce soit arrivé, mais j'ai arrêté d'être gêné de donner 5 après que j'ai moi-même travaillé à pourboire. Quand j'ai réalisé à quel point c'était payant pour ce que tu fais, ben je dis pas que c'est facile, là. Je veux dire, même
non.
Des carrières extrêmement difficiles dans le service, là. Mais quand j'ai réalisé à quel point c'était payant, je me suis dit, ben, la fois que j'échappe un client, il y en a un avec qui j'ai été bête, ça se peut, dans le fond. Tu sais, je suis pas infaillible.
Bon, les tous, une fois de temps en temps, c'est normal.
Ben, à partir de là, moi, si je reçois un mauvais service, je suis moins gêné de mettre 5 pour que le signal au moins soit clair. Tu m'as donné un mauvais service.
Ben, je crois que c'est juste aussi, tu sais, c'est juste. À un moment donné, ça coûte très rapidement très cher au restaurant. Tu rajoutes 15% de taxes, tu rajoutes 15% de pourboire, ben, c'est 30% de plus. Je suis bien d'accord, oui. Là, sortir au restaurant, puis beaucoup de personnes disent, si t'as pas d'argent, va pas au restaurant. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. Tu envoyais un mauvais message, toujours laisser 15%. Tu sais, quand je prends un taxi, là, à l'aéroport de Montréal, le taxi est tout croche, là. Puis le chauffeur de taxi, il prépitonne les boutons puis pour boire. Excuse-moi là, non là, mais c'est complexe. C'est l'argent a toujours été tabou ici et le conflit était tabou. Donc imagine. Créer un conflit à cause de l'argent, ben là, c'est
ah oui, on veut éviter ça à tout prix. Là. C'est comme 15%, j'achète la paix, puis bonsoir. Là.
Exactement, exactement.
Mm-hmm. On parlait de Revenu Québec tantôt, Nicolas. Moi, j'ai toujours cette question-là derrière la tête parce que je me dis, OK, la serveuse ou le serveur qui m'a servi aujourd'hui, si je lui donne pas de pourboire, ben elle va se ramasser à payer de l'impôt sur un pourcentage de ses ventes en fin de soirée alors que je l'ai pas aidé là-dessus. Je devrais pas être influencé par ça non plus, là.
Ça fait partie du risque du métier. Hein. Ça, c'est sûr que quand on accepte d'être serveur, on connaît les règles. Quand la personne ne laisse pas de pourboire et que t'as fait un excellent service, bon, là, je trouve pas ça correct. Quand t'as fait un médiocre service, que tu payes un peu la note, je ne sais pas qui pourrait être contre ça. Si tu fais pas la quel emploi te garde si tu fais pas la job, on s'entend là.
Exact.
Bon, mais c'est sûr que ministère des Revenus est rapide sur la gâchette. Ça, il faut être conscient. Puis des fois, je trouve ça injuste dans certaines situations. Les personnes travaillent pour leur pourboire aussi. Si on leur donne, c'est à eux qu'on leur donne. Quand je donne 15$ de pourboire, je réfléchis pas, mais finalement, il y a 7$ qui vont au ministère des Revenus.
C'est ça.
Peut-être la prochaine fois, je laisserai 8$. Tu sais.
Ah ouais. Donc, Nicolas, tu vas recueillir les commentaires de tout le monde qui ont vu ton article sur lesaffaires.com. Je sais pas si tu comptais nous offrir une suite éventuellement, mais si jamais ta réflexion évolue, là, on veut avoir tes lumières là-dessus.
Ben, je crois que je vais faire un top 4 des meilleures idées que j'ai reçues parce que je pensais pas que ça allait exploser comme ça sur les réseaux sociaux, mais en plein été. Mais franchement, non, j'ai été très surpris et je suis content d'ailleurs parce que j'aime ça. Partager des idées puis discuter avec d'autres personnes.
Nicolas, je veux profiter un petit peu de ta présence pour jaser de l'engouement pour un de vos nouveaux produits. Vous avez lancé ça au début de l'été, un premier gin tonic prêt à boire au Canada. Vous avez misé sur notre paresse carrément.
C'est vous, ça.
Ça a fonctionné.
Oui, c'est nous. C'est la guerre atomique, vous comprenez pas. On ne fournit pas assez, mais jamais. On produit. Romeo Gin Tonic. Premièrement, là, c'est un produit qui est vraiment bon. Là, je vous dis ça parce que pas parce que c'est à moi, mais c'est 100% naturel. Puis c'est très bon en sucre. Donc, c'est vraiment quelque chose. Il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que ça fonctionne. La canette est superbe. C'est un artiste montréalais qui s'appelle Tava, qui a tellement de talent que j'adore.
Okay.
Le produit est bon. Mais en plus, on a eu un été caniculaire où il a fait chaud presque tout l'été. Donc, franchement, on a inspiré beaucoup de personnes, mais on fait littéralement 7 à 8 fois nos attentes.
Ah oui.
Donc, c'est hallucinant. On est très content parce qu'on a revigoré, on a réinventé une catégorie qui existait déjà, mais qui était remplie de produits chimiques et de sucre.
Uh-huh. Puis, est-ce que ça a été compliqué de trouver le tonique pour aller avec le gin que vous connaissiez déjà hyper bien?
Ben moi, je suis très picky dans mes trucs. Donc, tu sais quoi, on a développé notre propre tonique. J'arrivais pas à trouver le tonic qui allait à perfection avec Pure Vodka, qui a quand même des arômes très très précis. Donc, on a développé un tonic à la fleur de sirop et à l'écorce de mandarine, 100% naturel, sans blague. Des fois, je me dis, est-ce que je devrais pas lancer mon propre tonic, le Romeo Tonic? Ça marcherait tellement, le tonic est tellement bon. Donc, ouais, on l'a développé nous-mêmes.
Ouais. Et compte tenu du succès, Nicolas, est-ce que vous pourriez être tenté de lancer le produit sur d'autres marchés à court ou à moyen terme?
Ben, l'objectif, c'était de le lancer sur nos autres marchés. Nous, on est en Angleterre, en France, en Australie, au Danemark.
Okay.
Mais on pouvait pas. Ils nous ont engueulés. Je me suis engueulé cet été, OK? Parce que mes distributeurs à l'étranger voulaient la canette, puis il n'y en avait pas assez pour le Québec. Oui. C'est sûr que je vais prioriser le Québec. Puis l'autre jour, j'étais encore une fois à Québec. Je suis souvent à Québec, ma belle famille est là. Galerie de la Capitale, je suis avec ma fille. Puis il y a une dame qui me dit, c'est vous le monsieur de la vodka? Oui. Elle dit, ben, vous saurez que ça fait 10 succursales que je fais, puis je ne vous trouve pas vos canettes. Je me suis fait engueuler. Donc, vraiment, là, j'ai vérifié, avant d'accepter l'entrevue, j'ai vérifié avec mon équipe, est-ce qu'il y a des succursales à Québec qui ont des canettes?
Oui, il y en reste.
Je me suis arraché la tête. Il y en a, là, j'ai vérifié.
Okay, okay.
Donc, ne m'en gagnez pas. S'il n'y en a pas, c'est pas de ma faute.
Mais Nicolas,
mais ouais, non, on est très contents.
Nicolas a l'air d'exagérer, Jeff, mais j'ai vu des petites canettes vertes comme ça passer partout où je suis allé cet été. Il y en avait au festif de Baie-Saint-Paul, j'avais des amis qui en avaient amené. Il y en avait à la pêche, il y en avait amené. Autour des feux de camp, tout le monde avait des petites maudites canettes, puis c'est vrai que c'est
je le sais, mais sans blague, vous comprenez pas, moi qui étais un entrepreneur là, de la base, là, je torchais les planchers, puis j'espérais que ma blonde m'aime pour me faire vivre, puis de partir de cette entreprise-là. Vous comprenez pas comment je suis content, ému, fier d'avoir ce support-là des consommateurs, parce que finalement, les canettes, c'est le monde qui les achète. T'sais. Hey, un petit gars là qui avait les planchers à Sainte-Justine, puis qu'on se retourne, puis cette année, on va certainement dépasser le million de canettes. Ah, vous comprenez pas à quel point...
Alors, c'est ça qui est fou, là.
Alors, moi, là, ça me fait triper. J'aimerais remercier ce million de personnes-là personnellement. C'est comme le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à un entrepreneur, c'est de le supporter. Mm-hmm. Et on a été massivement supporté. Donc, franchement, moi, ça me donne des frissons de savoir que le monde, que j'ai créé un produit qui est un risque de créer un nouveau produit, mais que le monde, m'ont comme dit Nick, vraiment, t'as fait une sacrée bonne job. Moi, c'est wow. Donc, merci à tout le monde qui écoute.
Bravo pour le succès, Nicolas. Puis, je surveille lesaffaires.com pour le deuxième volet de ton texte sur le pourboire.
La semaine prochaine,
si on règle le problème, là, regarde, ce sera ça, là. Ça a repris un blog sur lesaffaires.com. Mais regarde, si on peut faire avancer le dossier, ça va être apprécié.
Exact.
Merci, Nicolas.
Ben, merci, les gars. Passez une bonne soirée. Puis, merci à tout le monde dans la région de Québec et partout ailleurs. Merci mille fois.
Ciao, à la prochaine.
Merci, ciao.
Nicolas Duvernois, PDG, fondateur de Pure Vodka et de Romeo's Gin. Si vous souhaitez lire son article en lien avec le pourboire, c'est sur lesaffaires.com.